marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Nous entendons dès à présent notre triomphant avenir marcher à grands pas dans l'histoire. Oui, cela va commencer.
La réforme des retraites en Scandinavie.
À quoi pourrait bien ressembler le Danemark de 2020 ? Le concept généreux d'État-providence a été le fondement de la perception de nous-mêmes et nous pouvons à juste titre en être fiers. Nous voulons créer les écoles les plus performantes du monde. Mais comment pourrons-nous les financer ? On ne peut plus payer certaines choses. Nous devons revoir la période de pré-retraite et la diminuer, oui ?
Vous ne touchez pas là aux droits fondamentaux de l'État-providence ? Il faudrait faire attention à cette formulation. Parce que t'as l'air de considérer les pré-retraités comme un poids pour la société.
Ouais, j'ai entendu que ça sonnait pas bien. Oui ?
Peut-être aurez-vous reconnu Borgen, le château, le siège du Parlement, au Danemark. Série télévisée bien connue. L'État-providence, c'était la sécurité du berceau au tombeau. Il était parvenu à assurer aux retraités un niveau de vie quasi équivalent à celui des actifs. En moins d'une génération, les salariés scandinaves ont cependant fini par être convaincus que leur système de retraite ne serait plus tenable à l'avenir. L'argument démographique a pesé lourd dans leur changement d'attitude. Le ratio population active, population pensionnée se détériore en effet. Peut-être les salariés auraient-ils consenti à une augmentation de leurs cotisations, mais un autre argumentaire leur a fait valoir qu'il fallait contenir les charges sociales comme les dépenses publiques afin de rester compétitif. En Scandinavie, comme dans les autres pays développés et mûrissants, l'appel à la responsabilisation individuelle a donc été entendu. La retraite par capitalisation personnelle a gagné en importance. Les sociaux-démocrates, qui occupent traditionnellement le haut du pavé dans cette partie de l'Europe, sont pour beaucoup dans cette évolution, qui rejoint par ailleurs les recommandations pressantes des institutions internationales et de l'Union européenne. Néanmoins, en Suède particulièrement, l'attention la plus grande a été donnée à la recherche longue et patiente du consensus. Un groupe des pensions assure le suivi de la réforme, il est composé de tous les partis et des syndicats aussi, mais il exclut jusqu'ici l'extrême droite nationaliste. Or, celle-ci, une fois la page des retraites apparemment tournée, a imposé à l'agenda politique le sujet de l'immigration. Comment expliquer le passage d'une priorité à l'autre ? C'est le sujet le plus difficile peut-être de notre émission. Une hypothèse, quand la cohésion sociale repose moins qu'auparavant sur la solidarité, on est tenté de la fonder sur l'identité culturelle, voire ethnique, et de nouveaux entrepreneurs politiques ont vite fait de vous entraîner sur ce chemin.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bruno Palier, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous connaît comme dirigeant d'un laboratoire d'évaluation des politiques publiques. Des petits que sais-je très précieux, la réforme des systèmes de santé et la réforme des retraites. On sait moins que vous parlez le danois et le suédois pour enseigner dans les universités de Scandinavie, non ?
Non. Quand j'enseignais là-bas, j'enseignais en anglais.
D'accord. Mais comme le Premier ministre suédois sortant.
Le Premier ministre suédois sortant parle parfaitement anglais, comme à peu près toute la population suédoise ou danoise, qui est biberonnée par l'anglais. Les séries télévisées ne sont pas doublées, elles sont simplement sous-titrées.
Et pourtant, c'est un ouvrier. C'est quand même une spécificité qui demeure en Scandinavie. Il peut y avoir des ouvriers au Parlement et au gouvernement.
Il peut y en avoir, tout à fait.
Ce qui devient assez rare chez nous. Alors juste...
Et des femmes.
Un mot. Chaque pays... Même si tous les sillons sont en train de converger sous l'influence des institutions internationales et européennes, chaque pays garde en matière de retraite son sillon historique. Alors, les Français vont être étonnés si vous leur dites et redites « nous sommes dans un système bismarckien ».
Oui, on peut dire ça, on peut dire un système bismarckien, en référence au fait que Bismarck, le chancelier Bismarck, est le premier en Europe à avoir rendu obligatoire ce qui s'était développé un peu partout dans les pays qui s'industrialisaient, en Grande-Bretagne, en France avec les sociétés de secours mutuels et en Allemagne avec les Hilfskassen. Bismarck a généralisé et rendu obligatoire les assurances sociales, qui sont les mécanismes au cœur de notre sécurité sociale aujourd'hui et qui n'ont pas beaucoup changé dans leurs principes, c'est-à-dire on paye des cotisations sociales sur son salaire, en échange de quoi on a la garantie qu'on touchera un revenu si l'on ne peut plus travailler de façon façon temporaire, on est malade, ou on est au chômage, ou bien de façon définitive, on part à la retraite. Ça, c'est les assurances sociales, et c'est ce qu'on appelle parfois les systèmes bismarckiens, en référence à l'action du chancelier.
Le montant des retraites étant assez largement proportionnel au salaire passé.
C'est un des principes, hein, le principe de la contributivité, où les Allemands parlent de « equivalence principe », hein, c'est « j'ai le plus possible autant et à proportion de ce que je gagnais en montant de salaire, et surtout aussi du montant de la durée des cotisations. »
La Suède suit un autre sillon historique, Beveridge. Alors Beveridge, rapport Beveridge, 1942.
Oui, l'histoire de Beveridge est intéressante. Hein. C'est un haut fonctionnaire qui s'est beaucoup investi dans les questions de politique sociale dans l'entre-deux-guerres, qui s'est fait une réputation, qui a essayé d'apporter des améliorations au système, mais qui était opposant à Churchill. Et Churchill, pour s'en débarrasser, entre guillemets, pendant la guerre, lui confie une mission, une commission, c'est « dites-nous comment réformer le système britannique de politique sociale ». Et il pensait le mettre à part sur une commission technique. En fait, Beveridge va publier un rapport qui s'appelle « Les politiques sociales et leurs services associés », publié en 1942, qui va avoir d'abord un succès énorme, puisqu'il va s'en vendre beaucoup lors de sa publication, et surtout un succès politique, puisqu'il va définir, je dirais en positif, les raisons pour lesquelles on menait cette guerre. On mène cette guerre pour garantir à tous le mieux-être, une vie décente, ce qu'en français on appelait les jours heureux dans le rapport du Conseil national de la résistance, mais Beveridge a vraiment porté un souffle fort qui entraînait les mobilisations, pas seulement pour battre les nazis, mais aussi pour installer un nouveau monde.
Un revenu à tous.
L'idée, c'était que du berceau jusqu'à la tombe, from cradle to grave, tout le monde puisse bénéficier d'un revenu en cas de difficulté, et qu'il fallait aussi éliminer de la surface de la terre les difficultés les plus graves, comme l'ignorance, la faim, le fait de ne pas avoir de toit, et aussi le chômage.
En Suède, la réflexion commence dès la fin des années 1980. Il y en a un qui se réjouit du caractère précoce de cette réflexion, c'est Hans Göran Persson, qu'on va entendre, France 2, un œil sur la planète. Alors, Hans Göran Persson a été chef du Parti social-démocrate. Il faut savoir que le Parti social-démocrate suédois, il lui est arrivé d'être dans l'opposition. Il a repris le pouvoir en 93-94. Göran Persson était ministre des Finances. Puis, pendant une dizaine d'années, Premier ministre, c'était le moment où la Suède venait d'adhérer à l'Union européenne comme la Finlande, et il entendait les recommandations de l'Union européenne. Attention, l'endettement, c'est une catastrophe, et la dette publique doit être jugulée.
Those who are indebted. Ceux qui sont endettés ne sont pas libres. And, that goes c'est valable pour les individus, individuals. Pour les familles, pour les entreprises et aussi pour les États. Il faut le comprendre, et particulièrement dans une économie mondialisée.
Donc vous diriez que les dirigeants français et européens sont trop timides avec leurs réformes?
Oui, ils le sont, parce que qu'ont-ils devant eux? La question des retraites. En France, par exemple, vous devez réformer votre système de retraite. Si vous ne le faites pas, vous aurez un conflit permanent et de plus en plus important entre les retraités et les actifs qui cotisent pour les pensions. Et si j'ai un conseil pour mes anciens collègues, faites-le le plus vite possible, avant qu'une majorité de l'électorat ne dépasse la cinquantaine. Et c'est ce qui pend déjà au nez de certains pays.
Sinon, ce sera trop tard.
Oui, ce sera trop tard. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour comprendre que dans une campagne électorale, les 50 ans et plus, si vous leur annoncez une réforme des retraites, vont espérer une augmentation des pensions. Alors qu'honnêtement, on doit les baisser. Et si vous n'y arrivez pas, le marché et l'économie mondialisée vous puniront. Et vous serez acculé comme nous l'avons été au début des années 90.
Le rapport de force électoral, évidemment, ne veut pas considérer que le ratio population active-population pensionnée va diminuer, parce que c'est l'intérêt des électeurs les plus âgés, mais c'est la réalité. On met toujours en avant cet argument démographique.
Alors cet argument démographique, on commence à en prendre conscience dans les années 70. On constate que les gens vivent de plus en plus longtemps. On constate aussi une baisse de la fécondité. Et je dirais que la population française commence à en avoir vraiment conscience et à en accepter, les termes, à la fin des années 90.
Les Scandinaves, plutôt ?
Les Scandinaves, c'est un petit peu plus tôt, parce que, notamment, ils ont un souci démographique depuis, en fait, les années 20-30. Hein. À l'origine du modèle scandinave, il y a aussi le souci du départ des forces les plus actives vers les États-Unis, en gros, hein, parce que le pays est pauvre et qu'il y a beaucoup d'émigration. Donc, il y a un souci démographique très ancien chez eux. Mais chez nous, je crois qu'autour de la réforme de 2003, les esprits étaient, si on peut dire, mûrs. La pédagogie avait été faite.
Alors, les sociodémocrates diraient, en Scandinavie, nous avons montré le chemin. Alors, il y a toutes sortes de possibilités. On prolonge le travail des seniors, c'est ce qui tente de se faire en Finlande. On peut mettre l'âge de la retraite un peu plus tard. On pourrait aussi augmenter les cotisations, mais la préférence est donnée à la capitalisation, à son épargne personnelle.
Alors ça, c'est un choix politique. Le choix politique initial, on y reviendra, c'est qu'il fallait que tout le monde soutienne la réforme des retraites, y compris le patronat. Et le patronat avait mis comme condition sine qua non à son soutien qu'il y ait une dose de capitalisation dans le nouveau système de retraite. Donc là, il y avait un point très fort. Le deuxième point, soutenu par le patronat suédois, comme par à peu près tous les patronats en Europe, c'est qu'il était hors de question d'accroître le coût du travail, donc les cotisations sociales. Cela dit, dans les pays nordiques, le financement, y compris des retraites, passe moins par les cotisations sociales qu'en France, par exemple, et beaucoup plus repose sur l'impôt.
Et les fonds de pension, alors ? Les acteurs privés qui vont trouver un nouveau champ d'expansion, d'offres ?
Exactement, c'est aussi une stratégie économique pensée par les gouvernements suédois, c'est faisons venir les capitaux et développons le business des affaires, le business financier, parce que c'est une voie d'avenir pour l'économie, pense-t-il à l'époque, et donc instiller de la capitalisation dans le système des retraites, c'est penser aussi comme étant favorable à l'économie, ça va créer de l'activité, des emplois.
Mais alors quand vous enseignez là-bas, à la fin des années 2000, et quand, pourtant, Elle tourne de Jean-Marc Four réalise ce reportage, l'adhésion des Suédois au fonds de pension est mitigée.
Avant, je n'y connaissais rien. Je ne suivais pas du tout l'évolution de la bourse. Je ne me suis jamais occupé de ça, mais quand j'ai dû faire un choix pour ma capitalisation, j'ai opté pour un fonds générationnel qu'on me proposait et je n'y ai plus jamais touché. J'ai trouvé que c'était difficile. Il y a des centaines de fonds. C'est dur de comprendre tout ça. Quand on n'y connaît rien, c'est vraiment dur de se décider.
C'est impossible de faire un bon choix quand on pense qu'il y a 800 fonds, surtout quand on n'y connaît rien. Ce sont des sociétés privées qui se font de l'argent sur un système public. C'est absurde. Ça a été un beau cadeau au privé, puisque tout le monde doit souscrire à un fonds. En plus, ça génère de l'insécurité, car les fonds n'ont pas les mêmes résultats. C'est la loterie. Vous et moi, on peut avoir toutes les deux le même emploi, le même salaire, et nous retrouver, de par nos choix de fonds de pension, avec une retraite totalement différente. Dans le cas d'un système public, c'est choquant.
Je suis inquiet parce que j'ai l'impression qu'ils vont jouer au loto avec l'argent de ma retraite.
On va voir. Si tu as de la chance, tu vas avoir de l'argent, mais autrement, on ne sait jamais. C'est beaucoup plus instable. J'ai l'impression que... Moi, je ne sais pas.
La crise de 2008 vient de passer, là. Conséquence, d'ailleurs, de cette crise de 2008, réflexion sur l'efficacité des fonds de pension après qu'ils ont subi la tempête.
Là, ce dont les Suédois font part, c'est le fait que la notion de choix était centrale dans la réforme des retraites et en fait est centrale dans les réformes du système d'État-providence suédois depuis les années 80. C'est en fait la droite qui a mis en avant cette notion de il y en a assez de ce système qui nous uniformise, il faut introduire du choix. Donc ça va pour les écoles, ça va pour les systèmes de santé et ça va pour les retraites. Mais le choix est tellement large que les Suédois se sentent démunis. Tous les ans, on leur demande, êtes-vous sûr que vous choisissez ce fonds de pension ? Et in fine, ils vont souvent choisir l'option publique, une gestion des fonds de pension par des administrations publiques. Alors, c'est une part pas très importante hein, des retraites futures constituées par la capitalisation, puisque c'est 2,5% de leurs cotisations qui y vont. Effectivement, il y a le trouble. Il faut être, comme diraient les Britanniques, formé. Hein, on parle de financial literacy. Il faut être formé en finance pour comprendre comment fonctionnent les fonds de pension et faire ses choix. Mais encore une fois, c'était C'était une condition donnée au patronat. Ce n'est pas en Suède ou dans les pays nordiques où les fonds de pension ont le plus perdu en 2008 parce qu'il y a beaucoup de règles prudentielles, comme on dit, ou en Allemagne, c'est vraiment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, où les fonds de pension ont perdu énormément de leur valeur pendant cette crise.
On parle de la réforme des retraites en Scandinavie. Quelle angoisse, dit notre réalisatrice Audrey Ripouille, à qui Martin Penner recommande cette chanson rassérénante de Jean Ferrat.
J'aurais bien voulu te prendre avec nous comme autrefois, mais Suzy m'a fait comprendre qu'on est un peu à l'étroit. Il faut être raisonnable, tu ne peux plus vivre ainsi. Seule, si tu tombais malade, on se ferait trop de soucis. Tu verras, tu seras bien. Tu verras, tu seras bien. On va trier tes affaires, les photos auxquelles tu tiens, celles de papa militaire, des enfants et des cousins. C'est drôle qu'une vie entière puisse se tenir dans la main avec d'autres pensionnaires, vous en parlerez sans fin. Tu verras, tu seras bien. Tu verras, tu seras bien.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Oui, mais comment payer nos retraites et nos maisons de retraite? Question à Bruno Pellier, auteur notamment, que sais-je, Presse universitaire de France, de la réforme des retraites. On met l'accent aujourd'hui sur la Scandinavie. On pourrait dire un mot du Danemark à cause de la série Borgen et puis aussi de l'admiration que Emmanuel Macron a pour le système danois. Comme ça, par SMS, on est licencié dans la journée, mais on peut retrouver du travail dans le mois qui suit, paraît-il. Le feuilleton Borgen, vous ne l'aviez pas vu là-bas, il n'était pas encore tourné. Et vous l'avez vu ici?
Non.
Alors on est donc au Parlement. Non, mais vous êtes un expert, alors vous comprenez, vous regardez pas les séries télévisées. On est avec une première ministre. Cette première ministre est membre du Parti social-démocrate. Et l'épisode dans lequel nous sommes est intitulé « Le dernier prolétaire », parce que le ministre des Affaires étrangères, vieux chef du Parti social-démocrate, est un prolétaire. C'est ça d'ailleurs l'idée hein, en Scandinavie, l'intégration sociale.
L'idée véritable à la formation du Parti social-démocrate, c'est le parti ouvrier qui deviendra le parti du peuple. C'est vraiment, on part des ouvriers et on arrive à former un parti qui représentera l'ensemble de la nation.
Mais est-ce que vous n'avez pas une vision un peu archaïque, Bruno Pellier? C'est en tout cas ce que les jeunes du cabinet disent aux vieux chefs.
D'abord, nous voulons aménager la pré-retraite, tu t'y opposes, et ensuite tu veux bien quand même.
Excuse-moi, mais je me bats pour trouver une solution décente et résoudre une situation qui nous pose problème.
Enfin bon, ce que Pernet cherche à démontrer, c'est que le syndicat, c'est une chose, la population danoise en est une autre. C'est elle notre principale préoccupation.
La population danoise n'est pas seulement composée de hauts fonctionnaires et d'anciens universitaires comme Pernet et toi. Il y a des gens fragiles dans cette société pour lesquels... dont la situation est notre première préoccupation dans notre parti.
Je crois que tu décris un Danemark qui n'existe plus, Björn.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je pense que les personnes dont tu parles pourraient très bien se contenter de la retraite anticipée et de l'allocation temporaire d'attente. Ta relation avec la pré-retraite est purement sentimentale parce que tu as participé à son élaboration au sein du Parlement.
Je ne vois pas ce qu'il y a de sentimental à vouloir protéger les plus fragiles.
Très bien, nous en reparlerons plus tard. Mais je peux te dire que nous sommes plusieurs dans ce parti à penser que tu places la cible au mauvais endroit. Que ce n'est pas en phase avec notre époque, la fiscalité, ni même les aspirations.
Il est grand temps de rétablir la discipline au parti et d'y mettre de l'ordre.
Bon, ben, le vieux chef, il va pas réussir à maintenir la discipline. Il est trop sentimental.
Oui, on entend bien un débat qui parcourt les partis sociaux-démocrates en gros nordiques, mais aussi anglais et américains dans les années 90. C'est est-ce qu'il faut faire bouger les lignes pour correspondre aux mutations de la société? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu le vieillissement démographique, à savoir les gens vieillissent et vivent de plus en plus longtemps. Et c'est pas parce qu'il y a moins d'ouvriers actifs sur le marché du travail que la population ouvrière a disparu puisqu'ils sont retraités après. Et là, il y a une erreur de calcul sur ce qui compose véritablement l'électorat. À ne se focaliser que sur les nouvelles activités, la désindustrialisation, qui sont aussi des phénomènes tout à fait vrais, mais qui ont peut-être biaisé la vision de la transformation de la société. Par ailleurs, une petite remarque, hein, quand l'un des jeunes dit il y a ces deux choses, les syndiqués et la population, un des buts des partis sociodémocrates et du syndicalisme dans ces pays-là, c'est d'être un syndicalisme unifié et qui syndicalise tous ceux qui travaillent. Et on a des taux de syndicalisation encore aujourd'hui supérieurs à 70, voire 80% dans ces pays.
Alors, on n'a pas donné très précisément, c'est ma faute, la date de la réforme suédoise. Enfin, elle est très difficile à fixer, parce que j'ai dit, le début de la réflexion, c'est 1988, mais la fin?
Alors, la fin, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de fin de cette réforme, puisqu'elle est continuellement en adaptation, puisqu'il y a des mécanismes d'ajustement automatique. Il reste que ce qui est assez intéressant, c'est qu'il
Même, ça passe au Parlement.
Ça passe au Parlement en 94 et en 98. Et vraiment, ça se met en place en 98 avec l'idée que le phasage, si vous voulez, l'entrée dans le nouveau système sera terminée entre 2005 et 2015. Donc, vous voyez, c'est du temps long. Et ce qui est assez intéressant, c'est de comparer le rythme français et le rythme suédois, puisqu'on a en 88 l'annonce en Suède qu'on va mettre en place une commission qui va réfléchir à la réforme des retraites. Et en 88, c'est le moment où Michel Rocard commande un livre blanc sur les retraites. Et donc, le point de départ est le même. Nous, on va multiplier les réformes. Je les avais notées puisque Persson l'avait annoncé. Et c'est ce qu'on a fait. 93, 95, 2003, 2007, 2010, 2013, 2017. Et donc, 2017, on l'annonce, c'est 2019. Donc, on a multiplié les réformes, ce qui a inquiété la population. Et les Suédois prétendent, eux, en avoir fait une seule, mais une grande, systémique et consensuelle. Et donc, de 88 à 94, la commission, qui deviendra le groupe des retraites, réfléchit, se met d'accord jusqu'à atteindre le consensus. Ils attendent d'avoir un consensus.
Alors, le groupe des retraites rassemble la quasi-totalité, sauf l'extrême droite nationaliste des partis politiques, et puis aussi les forces syndicales, et sa présidente en a été longtemps, Anna Hedborg, que voici.
Ça a pris un temps fou. Si on avait su au départ combien ce serait difficile, on ne se serait pas lancé. Il faut avoir l'idée, se mettre d'accord, avoir le vote des Suédois, organiser les changements. Heureusement qu'on était inconscients, mais la question des retraites exigeait ce consensus. Ça n'a pas été facile de se mettre d'accord. La droite et la gauche ne voulaient pas les mêmes choses. La droite voulait plus de capitalisation dans le système et la gauche plus de redistribution pour les chômeurs ou les plus fragiles.
Et c'est sans fin, disiez-vous. Mais chaque année maintenant, celui qui a plus ou celle qui a plus de 26 ans reçoit par courrier l'état de sa situation. Très angoissant, dit Audrey Ripouille. Vous allez reconnaître d'ailleurs l'interlocuteur français là qui parle.
Les Suédois reçoivent tous les ans une enveloppe orange dans laquelle il y a leur situation au regard de la retraite, année après année et en fonction d'un certain nombre d'hypothèses économiques. Ce qui fait que les Suédois sont tous individuellement concernés par leur projet de retraite. Je pense que c'est une idée que nous retiendrons.
Vous avez reconnu?
Oui, c'était François Fillon, je crois. Votre réalisatrice dit angoissant. L'idée, je ne sais pas si ça a bien réussi, mais l'idée était au contraire de lever les angoisses pour être en toute transparence et permettre aux citoyens suédois de savoir chaque année où ils en sont en matière d'accumulation de leurs droits en retraite, de façon à anticiper s'il fallait travailler un peu plus, mettre plus de côté, etc. Et je crois que ça a permis en tout cas une appropriation de la retraite, et ça a aussi forcé le gouvernement et l'institution en charge de la retraite à se forcer à être simple et compréhensible. C'est-à-dire qu'il fallait tous les ans donner voilà vos droits, voilà ce que vous toucherez à la retraite, et expliquer comment c'était calculé.
Mais si j'ai bien lu quand même la réforme des retraites, vous laissez entendre qu'en Scandinavie aussi, les modifications amènent le risque d'inégalités grandissantes, notamment vis-à-vis des femmes, notamment vis-à-vis des travailleurs dont la carrière a été en dents de scie, et qu'au total on peut s'attendre à une baisse quand même.
Alors, c'est deux choses différentes. Alors, et non seulement on peut, mais les retraites ont baissé, notamment en Suède, du fait de la réforme. Quant à savoir si la réforme a accru les inégalités, je ne pense pas, au vu des travaux que je connais, dans la mesure où ils ont essayé de rendre explicites les risques d'inégalité à la retraite, tous les risques que vous avez cités, les interruptions de carrière pour les femmes, du temps partiel pour les femmes, les interruptions de carrière pour les plus précaires et d'autres situations, mais de prendre en compte ces situations et de donner des couronnes mises au compte des personnes qui subissaient ces difficultés-là, de façon à ce que, au moment de la retraite, elles ne se retrouvent pas avec des revenus très inférieurs aux autres. En tous les cas, ce que je sais, c'est que l'écart, par exemple, entre les hommes et les femmes à la retraite en France, il est deux fois plus élevé que sur le marché du travail, alors qu'en Suède, l'écart est un petit peu réduit entre les hommes et les femmes à la retraite par rapport à ce qu'il est dans la vie active.
Je vous crois, Bruno Palier, puisque vous êtes expert. Mais maintenant, vous allez quitter votre casquette d'expert et essayer de répondre à cette question que je posais au début de l'émission. Une hypothèse. Pourquoi est-ce qu'on est passé en Scandinavie au sujet numéro un de l'immigration? Pourquoi l'immigration a-t-elle pris une telle place dans les débats? Quand la cohésion sociale repose moins qu'auparavant sur la solidarité, est-ce qu'on n'est pas tenté de la fonder sur l'identité culturelle, voire ethnique?
Moi, j'ai tendance à vouloir approuver votre hypothèse, en sachant que l'identité suédoise, comme le dit la première phrase de Borgen que vous avez citée au tout début de l'émission, l'état-providence, c'est le fondement de la perception de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'identité d'un Suédois ou l'identité d'un Danois est construite autour de l'état-providence. C'est ça qui nous a unifiés. Il parle d'ailleurs du folkhemmet, de la maison du peuple, pour désigner l'état-providence. Et l'idée est bien de construire une population unie, relativement homogène, au travers des mécanismes d'emploi public qui sont très élevés, et de redistribution. Simplement, comme je le rappelais tout à l'heure, dans les années 80-90, la droite donne des coups de bélier dans le modèle en disant « on n'a pas assez de choix, on n'a pas assez de différenciation, j'en ai assez de faire la queue avec les autres au système de santé, je voudrais que mes gamins aillent dans une meilleure école, je veux pouvoir choisir ». Et la droite accède au pouvoir sur ce thème-là et introduit la possibilité de choix par le biais d'écoles privées, par le biais de systèmes de santé privés, par le biais d'assurance et des choses comme ça qui deviendront les fonds de pension. Et quand personne reprend le pouvoir, quand les sociodémocrates reviennent au pouvoir, ils persistent à cette idée de choix. Et c'est ça qui crée les inégalités. C'est le fait de pouvoir choisir son école pour son gamin, parce que ceux qui choisissent les écoles, c'est pas tout le monde. C'est les classes les mieux rémunérées. Et donc vous commencez à avoir effectivement des fractures au sein de la société, plus la possibilité d'embaucher des personnes pour faire votre ménage, qui est vraiment contraire à une tradition suédoise, c'est tout le monde fait son ménage, par exemple. Mais ça instille des fractures, des groupes, qui fait qu'effectivement on ne se reconnaît plus comme étant part du même modèle social. Et là-dessus, vous pouvez avoir des gens qui disent ils abusent de notre modèle social parce qu'ils n'ont pas travaillé, ne payent pas d'impôts, sont venus et ne respectent pas nos règles et donc notre identité.
Ces gens, on les aura reconnus. Merci à vous, Bruno Palier. Je recommande votre réforme des retraites aux presses universitaires, lecture précieuse qu'a faite déjà Jean-Paul Delevoye, le commissaire aux retraites qui œuvre pour la réforme Macron. À venir, l'émission a été réalisée, est-ce qu'on l'a dit, par Audrey Ripouille, préparée par Frédéric Martin et Olivier Segura, avec à la technique Henri Bérec.